Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Cette finale, elle sera pour l'Espagne.
C'est
et
fini.
Le vainqueur donc d'Argentine. Angleterre, c'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Le chemin s'arrête à Dallas. L'Espagne était trop forte. Les Bleus ont pris une petite leçon.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. Et oui, on est encore en mode Coupe du Monde, mais on est triste aujourd'hui. Élimination de l'équipe de France. Et oui, la musique, elle va pas nous remonter le moral, cette musique. En tout cas, oui, l'équipe de France est éliminée. En effet, comme l'a dit Jean-Louis Tour en commentaire, on a pris une petite leçon hier. Et bah écoutez, ça tombe bien, pendant 2 heures, on va parler, on va débriefer ce match-là. Et c'est dans cette émission que le débrief, le meilleur débrief aura lieu, parce que vous allez voir l'équipe, forcément, c'est une équipe au top, avec, comme tous les jours, on est au Flora, brasserie parisienne dans le 9e arrondissement de Paris, on est en public, alors venez nombreux, même si on a la gueule de bois aujourd'hui, on est avec Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît,
c'est plutôt droit alors.
Non, là, on a raté la chicane. On a raté la chicane.
On est dans le bac à gravier.
Normalement, on devait faire droite-gauche et on a fait que droite et
casse
mur.
Hauteur.
Ouais. On est avec Christophe Dugarry, salut Dugas.
Salut les copains, salut à tous.
Ah, salut Dugas. Dugas était enjoué hier, tout allait bien, il était content. C'était les demi-finales.
Le premier match un peu sympa, crac. Comme quoi,
donc la Coupe du Monde de Christophe Dugarry aura duré un match.
Dès qu'on joue, 97 minutes.
Dès qu'on joue contre les coiffeurs, qu'est-ce qu'on est fort, c'est fou.
Ouais, ça, on est bon, c'est vrai. En termes de coiffeurs, il y en a un qui connaît. C'est Eric Dimeco. Salut Eric.
Ça fait l'autre dingue que je pratique plus comme Dugas. Salut Dugas. Salut Jérôme, salut Benoît. Salut à tous. Ouais. Moi, je vais juste me faire autant. Donc, tu sais, quand tu es vieux que tu les perds, un coup de tondeuse et c'est parti.
C'est pratique. Fini.
Alors on va prendre le temps dans ce Rotten sans flamme exceptionnel malgré tout, compte tenu des circonstances, d'analyser cet échec, cette défaite de l'équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde. À 19h, Rotten se chauffe. Est-ce la défaite de Didier Deschamps? On vous attend au 32-16. On reviendra sur les choix perdants d'hier et sur la communication ratée, notamment lorsque Deschamps a parlé de l'arbitrage. À 19h30, est-ce que la France a perdu contre la meilleure équipe du monde? C'est Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, qui l'a dit après le match. Là aussi, on en débattra. Et puis, on ouvrira ce soir le procès à 18h30 de Michael Olise, qui a gâché sa Coupe du Monde. Il sera malgré tout défendu par un membre de la Dream Team, vous allez voir. Donc, soyez là avec nous à 18h30. L'autre événement de la journée, c'est la suite de la Coupe du Monde, la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde. Magnifique affiche entre l'Angleterre et l'Argentine. Plus qu'un match de football, on vous l'expliquera à 19h45 avec Georges Quirino. Et puis à 18h45 dans le Allo Jérôme, un joueur argentin qui a marqué le championnat de France, Renato Civelli, sera avec nous pour parler donc des Argentins qui visent une deuxième finale consécutive. Avant de démarrer cette émission, Dugas, on a tous une pensée pour toi. Parce que la nouvelle est tombée, encore une mauvaise nouvelle pour les Girondins de Bordeaux. La confirmation en appel de la rétrogradation des Girondins de Bordeaux. Donc confirmation en appel. Les Bordelais, à l'heure où on se parle, pourraient évoluer en Régional 1 la saison prochaine. C'est terrible pour le club des Girondins de Bordeaux. On précise qu'un recours devant le CNOSF est toujours envisageable. C'est ce que Gérard Lopez a fait savoir. Il a également fait savoir qu'il lançait un appel d'offres pour trouver des repreneurs pour le club. Mais Dugas, on voulait avoir ta première réaction. On imagine encore de la colère et encore de la tristesse, malheureusement.
Écoute, je sais plus trop quoi te dire. Sincèrement, on a tellement été baladé ces dernières années. Je sais plus quoi dire. On est plus que groggy, on est choqué. Voilà, ça fait des années qu'on assiste au bal des incompétents, au bal des voleurs, au bal des mythos, parce qu'il y a des mythos là, quand t'as des clubs qui sont en difficulté, t'en as qui sortent de partout, des mythos. Donc écoute, ça ment dans tous les sens, c'est insupportable. C'est voilà tout le football, toute la déviance du mauvais football que l'on déteste, ce football business, ce football de trading, ce football de n'importe quoi, où des mecs viennent dans le foot pour les mauvaises raisons, et c'est notre club qui en paie le prix, c'est les salariés, c'est les gens qui aiment le club, c'est voilà, on certains se sont amusés avec notre club, ont craché sur notre club, ont détruit notre club, se sont gavés sur notre club, et voilà, c'est terrible. Mais bon, écoute, moi j'ai toujours espoir. Parce que Strasbourg a réussi, ils sont tombés aussi bas que nous, ils ont réussi à remonter. Donc voilà, j'ai espoir qu'avec la volonté des Bordelais, des Girondins, voilà, ce club est toujours aimé et apprécié, que ce soit un R1 ou un
champion.
Donc Donc ça repartira, mais c'est vrai que là je suis choqué, j'ai plus envie d'entendre les discours des années, j'ai plus envie de voir Gérard Lopez, j'ai plus envie de voir toutes ces ganaches là, toutes ces fonds d'investissement, ces soi-disant repreneurs, tout ça. Voilà, dégagez tous, voilà, on dira en R1 s'il faut, mais c'est bon, dégagez tous, on veut plus vous voir. J'en ai marre de ces gens-là qui se servent de notre club pour exister, voilà, c'est terrible,
ouais,
c'est
mais
terrible
du gars,
ce qui nous arrive.
Ouais. Tu faisais le parallèle avec Strasbourg, c'est la période où notre pote
Marc Keller,
avec qui on a joué en équipe de France, a récupéré le club. À force de descendre, à un moment donné, vous les anciens, vous allez peut-être arriver à le récupérer, comme avait fait Marc à l'époque, et avec les forces économiques locales, vos connaissances, peut-être que c'est à vous d'y aller là maintenant, parce que je comprends que à un certain niveau, ça coûte cher un club de foot et c'est compliqué. À R1, je suis pas sûr que ce soit pas faisable ce qu'a fait Marc à Strasbourg.
Non, c'est sûr. Ah, je pense qu'il y en aura. Alors, je te le dis clairement, ce sera pas moi, parce que c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Moi, j'ai, comme tu le sais, j'ai trois enfants petits, 5 ans, 3 ans et 5 mois. C'est pas la vie que j'ai envie d'avoir aujourd'hui à 54 ans. J'ai pas envie de travailler dans un club de football.
Tu as le porte-bébé kangourou devant là quand tu
parles. Ouais, petit, c'est ça. Exactement. Donc, non, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir.
Après, ça tirait bien.
D'autres ont certainement envie. Voilà.
Non, mais quand je dis vous, je parle pas projet.
Bien sûr. Mais comme on peut se poser la question à travers ta question, des gens peuvent se poser la question, je préfère y répondre d'entrée. Voilà, il y en a qui le feront, ça j'ai aucun doute là-dessus, et voilà, et je leur souhaite toute chance, et ils auront tout mon soutien, ça c'est certain.
C'est ça, c'est voilà, sûr. Peut-être que ils auront besoin d'un coup de main à un moment donné, d'autres anciens, juste pour donner la force, tu vois, mais sûr, je pense qu'à un moment donné, c'est aux anciens, quoi, peut-être de faire ce que Marc a fait à Strasbourg, merveilleusement bien.
Et on voulait apporter un message de soutien à tous les supporters des Girondins de Bordeaux, aux salariés du club, Ario Mavouba, qui a repris l'équipe en cours de saison et qui a failli les faire monter. Donc, une forte pensée pour tous les fans des Girondins de Bordeaux. 18h07 sur RMC, Rotten sans flamme. Allez tout de suite, naufrage en mode vision pour les Bleus hier soir.
15 avril 1912, 2h du matin, quelque part au milieu de l'Atlantique Nord.
C'est parti pour coup d'envoi de cette demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Espagne.
C'est tout droit, ça fait 6 mois qu'on
vous le dit. C'est tout droit.
Des gens qui ont tous embarqué sur le même navire, le RMS Titanic.
Et tout de suite, les Bleus positionnés pour contrecarrer les plans le plus rapidement possible.
On le dit sûr, on dit qu'il incarne l'avenir, mais on dit surtout qu'il est insubmersible.
Il y a quelqu'un qui m'entend ?
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Pénalty ! Ouah, quelle erreur ! Mignon, face à Oyarzabal. Et c'est le but ! Le but espagnol ! Aïe, 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 il fait mal celui-là !
C'est tout droit. Ah, mais il y aura quelques...
Il y a quelques virages.
Ouais, je pense qu'il y aura un ou deux virages.
Un péage.
Son nom est devenu le synonyme ultime de tragédie.
Pedro Pau, la frappe et le but ! Le deuxième but !
On a perdu contre nous-mêmes. On sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes.
C'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Le chemin s'arrête à Dallas.
On a respecté l'adversaire. Après, aujourd'hui, ça n'a pas marché comme on le voulait.
Les Bleus ont pris une petite leçon par les Espagnols. Ils peuvent rentrer tête basse.
RMC, intégrale Coupe du Monde.
Vas-y
Jérôme.
Non. Tu ressembles un peu à DiCaprio.
Ouais.
Le rêve d'une troisième étoile.
DiCaprio d'aujourd'hui ou d'avant, parce que
entre les deux.
Aujourd'hui, c'est pas très sympa.
Aujourd'hui, il est moins affûté qu'à une époque. Non. Tout à fait.
Méfie-toi. Hein.
On a perdu le rêve d'une troisième étoile à Dallas hier. Cette défaite 2-0 des Bleus. Oyarzabal à la 22e sur pénalty. Le deuxième but de Pedro Porro à la 58e. Des Bleus impuissants face au collectif espagnol. Une sacrée désillusion. Ça faisait 60 ans que la France ne s'était pas créée aussi peu d'occasions dans un match de Coupe du Monde. Et surtout, c'est la troisième défaite d'affilée face à l'Espagne.
Ouais, zéro.
Zéro occasion pour
la tête à ton niveau.
Jean-Louis Tour, la voix du foot avec nous en direct des États-Unis. Voilà. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
La voix du foot.
Jean-Louis.
C'est plaisir d'entendre la voix du foot quand même.
Exactement. On est tous déçus et le vestiaire a été anéanti après cette défaite.
Oui, c'était les mots de Didier Deschamps en parlant des joueurs hier après le match. Il parlait d'un vestiaire anéanti. Évidemment, personne l'avait vu venir dans ces proportions-là, cette défaite. Et d'ailleurs, ça va soulever pas mal de questions. Alors, on a eu les explications de Kylian Mbappé qui a fait une analyse après le match tactique, je pense, impeccable sur la lecture de la rencontre. Par contre, pour le reste, c'était d'ailleurs un peu étonnant de voir qu'il n'y avait pas de tauliers qui sont venus au micro, hormis Kylian Mbappé. C'est Ryan Cherki et Maxence Lacroix qui sont venus donner des explications. Donc, On se concentrera surtout de celle de Mbappé et de Didier Deschamps, donc dans cet après-match. Et surtout, bah, il y a plein de questions qui se posent maintenant. Et dans le vestiaire, c'était les mêmes questions qui ressortaient. Comment on a pu être l'équipe qui a mis le moins en difficulté l'Espagne sur l'ensemble de la Coupe du Monde? Ils sont très forts, c'est vrai, mais les autres équipes ont réussi à créer du danger contre cette formation. Certains choix de Didier Deschamps vont aussi être scrutés et ont suscité un peu d'interrogation. La sortie d'Adrien Rabiot à la mi-temps, la titularisation de Tchouaméni en difficulté physique, ne pas abandonner le système à 4 attaquants en cours de match pour ne pas se renier, ça fait partie de toutes les questions qui maintenant vont être soulevées. En plus, bien sûr, de la supériorité évidente de l'Espagne, que seul pour le coup Deschamps avait annoncé, là où nous, on s'est peut-être un peu enflammé sur le niveau de cette équipe de France, même si les bons matchs ont eu lieu. Mais en tout cas, le niveau de l'Espagne, Deschamps a dit depuis le début, c'est eux les favoris de la Coupe du Monde et c'est eux les favoris avant le match. Et bah, force est de constater qu'il avait raison là-dessus.
Et c'est donc la une de Rotten sans flamme. Merci beaucoup, Jean-Louis. Est-ce que la Coupe du Monde de l'équipe de France est ratée? 32-16 pour participer avec Jérôme, avec Duga, avec Eric. Jérôme, est-ce que tu considères que cette Coupe du Monde est ratée?
Ah bah oui, elle est ratée. On en avait parlé avant. Toi, t'aimais depuis quelques jours nous faire les thèmes. Et si on perd? Et si on va pas en finale? Et si? Et c'est. Je vais pas me renier. Je pense que on était tous unanimes au début de la compétition pour dire que cette équipe, elle avait tout pour aller au bout et que s'il y avait autre chose qu'une finale. Moi, je parle pas d'une finale gagnante parce que tu peux être en finale et perdre, et comme ça a été le cas en 2022 au tir au but en prenant une leçon pendant 80 minutes. Il y a des façons de perdre une finale, pas de problème. Mais quand tu n'y arrives pas à accéder à la finale, forcément, déjà, t'as échoué. T'as échoué sur ton objectif. Et puis, en plus, t'as échoué d'une façon où t'as pris une leçon. Parce que là, il faut être très clair. Moi, je suis d'accord avec Jean-Louis sur toutes les interrogations qu'on pouvait avoir avant le match. Moi, j'en ai eu certaines. Et malheureusement, en effet, les interrogations que je me posais, et je dis bien malheureusement parce que je suis pas content de ce qui s'est passé, et je suis triste, mais je pense que on aurait pu éviter certaines choses. Je dis pas qu'on aurait évité la défaite, parce que c'est pas juste un changement de système qui aurait fait que on allait bousculer les Espagnols, parce que ça s'est joué autant, ça s'est joué, et ça fait partie du débat, et on va en parler avec Duga et avec Eric, peut-être en effet, certainement avant le match, tactiquement. Et puis après, il y a les performances des joueurs. Tu peux pas gagner un match de football quand tu fais autant d'erreurs techniques, ouais. Tu manques de justesse et qu'en face, en plus, et ça va dans la réflexion de Jean-Louis qui dit on est l'équipe qui a le moins inquiété l'Espagne depuis le début de la compétition. Bah oui, mais c'est normal. L'Espagne a évolué à un niveau sur ce match parce que c'était leur match. Ils l'avaient préparé pour ça. Ils ont tous augmenter leur niveau individuel et surtout collectivement, c'est une machine de guerre. D'accord? Donc ils ont fait leur meilleur match de la compète pour l'instant, les Espagnols. Peut-être qu'ils l'ont réservé le meilleur pour la finale. Ouais. Et je leur souhaite parce que si c'est le cas, ils seront certainement champions du monde. Après, à côté de ça, nous, on a fait le moins bon match de la compète. Et pourquoi? Parce que individuellement, déjà, parce qu'on mise beaucoup sur la qualité individuelle de nos joueurs. Et c'est pour ça que j'avais mis un petit point d'interrogation sur les deux derniers matchs. On pourrait même remonter à plus parce que on a embelli et certains ont embelli beaucoup de choses. En effet, moi, c'était bien d'être optimiste, d'être positif, très positif. Mais il fallait calmer le jeu avant cette rencontre. Quand tu as joué la Suède, quand tu as joué le Paraguay et que tu as joué le Maroc, franchement, moi, on a gagné les matchs, mais j'ai pas trouvé que c'était fantastique. Et que les quatre joueurs offensifs, où c'est magnifique, le déséquilibre, ils s'éclatent tous, je suis désolé, j'ai pas vu de l'éclat total entre eux. Voilà, il y a eu des faits de jeu, et tant mieux, il y a eu des joueurs qui sont, encore une fois, montrés au très haut niveau et qui nous ont permis de gagner, à l'image de Kylian Mbappé. Dembélé a mis un but sur le dernier, même si on reviendra aussi sur sa compète, c'est très décevant les performances de Ousmane sur l'ensemble de la compète, et c'est pas parce qu'il a mis un hat-trick contre la Norvège B que ça y est, on doit s'enthousiasmer, c'est la vérité, il a été décevant. Olise, on va en parler tout à l'heure, c'est la même chose. Des fulgurances, il y en a eu, bien sûr qu'il y en a eu. Il a une qualité de pied, moi je vais pas tout remettre en question. Je vais pas remettre le football de Olise, de Dembélé, de Mbappé ou de Barcola ou Doué en question, c'est pas ça. Mais ensemble, je trouve qu'il y avait des signaux
qui montrait que on n'était pas si flamboyant que ça. Et face à une équipe qui allait densifier son milieu comme d'habitude, parce que ça se passe beaucoup dans l'axe du terrain, ces Espagnols, là, oui, en effet, je me dis, on aurait dû, avec le ballon, faire beaucoup mieux. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Malheureusement, bah, on a tous été à un cran en dessous. Et voire deux crans en dessous pour certains. Donc tu peux pas rivaliser. C'est aussi simple. On peut faire toutes les analyses du monde. Tu ne peux pas rivaliser
donc
quand
c'est
il y a
à la fois tactique et individuel pour toi.
Mais bien sûr. Ouais. Mais individuellement, les matchs, je sais pas, même physiquement. Alors je sais pas comment ils l'ont préparé. Et certainement, et des mauvais matchs. Ouais, moi j'en ai fait. Duga en a fait. Et Eric en a fait.
Eric,
des matchs.
On se souvient plus. On se souvient plus. Moi je me souviens plus.
Des matchs où on est attendu. Où tu dis. On peut pas. On peut pas se tromper.
Ah ouais,
bah, et c'est arrivé à tout le monde. Le problème, c'est que là, d'un seul coup, c'est arrivé à tous les joueurs en même temps. Donc physiquement
peut-être
moins
une
bien.
Fois sur un match amical, je crois.
Mais bon, voilà. Donc pour en revenir, la Coupe du Monde est ratée de l'équipe de France. Et en plus, ce match-là, il restera dans les mémoires comme quoi on a pris une vraie leçon de football. Et moi, c'est ça qui me dérange parce que. Franchement, quand t'entends encore les discours, le discours de Cherki, mais franchement, j'ai envie de lui dire, mais tu sais quoi, reste dans le vestiaire. Bien sûr que c'est bien de venir. Il a eu les coronesses de venir devant la presse.
Ouais,
mais qu'est-ce que tu vas nous dire après un tel match? Qu'est-ce que tu vas nous dire que y a que
ouais, mais
toi?
Il a dit personne ne vient. Les câbles.
Non, mais d'accord.
Pas,
mais t'es pas obligé de tenir ce discours-là.
Ouais, mais ça, c'est une vraie question.
Tu l'envoies pour dire une banane incroyable.
Les mecs qui sont ballon d'or et qui ont des statues et tout, ils sont où après le match du coup?
Ils peuvent pas venir ceux-là.
C'est à eux de parler.
Ben, oui.
Ça dénote malgré tout une personnalité qui s'est vue dans la difficulté sur ce match-là aussi peut-être.
Et qu'est-ce qu'elle a raté cette Coupe du Monde?
Oui, alors moi, on avait fait le débat sur, c'est tous les trois d'ailleurs ensemble, je pense, c'est peut-être même
lundi,
d'ailleurs lundi,
ouais,
déjà lundi ou la semaine dernière, mais bon, on l'a fait ce débat-là. Duga et Jérôme, si je me souviens bien, étaient d'accord pour dire qu'il fallait au moins aller en finale pour réussir la Coupe du Monde. Moi, je parlais de demi-finale, mais je parlais de la manière de sortir à cette demi-finale. Et là, en effet, la manière fait que tu ne peux pas dire que la Coupe du Monde soit réussie. Imaginons, tu rivalises avec l'Espagne, parce que l'Espagne, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que depuis le début de la compétition, ils avaient été décevants, avec une certaine inoffensivité offensive, je ne sais pas si ça se dit. On avait même peut-être un doute défensivement sur cette solidité, parce que même s'ils avaient rencontré mieux que nous, on avait un doute. Là, par contre, ils ont monté le curseur de 2-3 niveaux. Et donc, sortir contre une grande équipe, si tu fais un grand match, ça arrive, tu peux faire un grand match, les mecs sont plus forts que toi, mais toi, tu fais jouer tes arguments. Là, j'aurais dit, bon, ben, y a rien à dire, bravo, c'est la meilleure équipe du monde, le coach l'a dit, on va peut-être faire un débat sur ça d'ailleurs, y a pas de discussion, mais là, sortir en demi-finale sur le premier match de haut niveau que tu as à faire, de cette manière-là, et malheureusement, tu sors par la petite porte. C'est terrible.
Écoute, c'est pas une défaite, c'est pas une élimination, c'est une humiliation. Voilà. Pour moi, c'est une humiliation qu'on a vécue hier. On savait qu'on pouvait perdre contre l'Espagne, il y a pas de souci avec ça, mais pas de cette façon. Voilà. Moi, je me sens floué, je me sens arnaqué, je me sens embobiné. J'ai encore souvenir des déclarations.
Cocu,
des déclarations des autres, des uns et des autres, ouais, des joueurs, de Deschamps.
Ne crois pas.
Non, mais je fais confiance à votre expérience.
Donc voilà, avec les déclarations, on n'y va pas pour gagner, on y va pour les massacrer. On joue pas très bien, mais on est sûr de nos forces. On a confiance en nous, en notre potentiel. On est prêt pour aller au bout. On est en mission. La mission, elle était magnifique. Voilà, donc toutes ces déclarations des uns et des autres. Et à l'arrivée, on accouche d'un match catastrophique à tous les niveaux. Pas une seule occasion créée. Tu sais que j'ai un truc, ce match, à quoi il m'a fait penser? Aux 80 minutes qu'on a joué face à l'Argentine.
Voilà. Et oui, 2022, que là, ça a duré 96 minutes.
Exactement. Sauf qu'il y a eu un réveil à un moment qui a fait que on nous a parlé après. Alors ça a pris le dessus sur tout, l'émotion et tout ça. Et moi, j'ai galéré, j'ai attendu et je me suis plaint pendant des mois. J'en ai pris plein la tronche. J'aimerais qu'on me donne une explication sur ce qui s'est passé sur ces 80 minutes. Comment on peut faire en finale 80 minutes comme ça, sans intensité, sans envie, sans hargne, sans rien du tout. Et on m'a dit, mais non, mais t'es rien, bah, je vois l'émotion, c'est la finale la plus incroyable. incroyable de tous les temps et tout. Ouais, très bien, allez, casquette, on a perdu, très bien. Et je pensais que, donc on m'a dit en gros, bon écoute, ça arrive une fois, il n'y a pas d'explication à te donner, du gars, ferme-la. Voilà, sauf que c'est arrivé encore une nouvelle fois. On est soi-disant les meilleurs, les plus forts, les plus grands, et puis t'as une nouvelle fois ce genre de match, et là t'as aucune réaction. Donc là, c'est l'humiliation.
C'est pire que la défaite à l'Euro contre les Espagnols pour vous?
Ah mais oui, c'est pareil, c'est
ah tout, non.
Tout est
ah non,
mais bon, oui, bah pire, si tu veux, mais après
c'est là, les pires, c'est
écoute,
là.
On a fait non, mais on a fait ces débats depuis moi on fait ces débats là, est-ce que c'est pire, est-ce que ça c'est pire, est-ce que ça c'est moins,
oui,
que
oui,
c'est...
Oui.
Ouais, j'ai sincèrement, excuse-moi, non mais j'ai pas envie de répondre à ça parce que ça a aucun intérêt. On en a rien à foutre que ce soit pire ou pas pire. Ce qu'on a vécu là, c'est une véritable humiliation.
Ce qui est embêtant, c'est que ça se répète.
Oui, mais c'est ça se répète.
Et ça fait trois matchs de suite, finalement. Non, la finale 2022, attends, la 2024, et ça le dire.
Mais ça fait 14 ans qu'on sait que cette équipe de France brille par ses individualités et que son jeu collectif est limité. Ça fait 14 ans que moi, ou 12 ans, ou 13 ans, qu'on est plusieurs à se peindre, c'est-à-dire, mais le jeu, on se fait chier, on s'ennuie, on s'emmerde. Oui, mais tais-toi, avec Deschamps, on sait qu'on joue pas bien et qu'on s'emmerde, mais au moins on gagne. Mais on gagne que dalle. T'as gagné une compétition sur 6, tu gagnes que dalle. Tout ça, ça a été du bluff. Tout ça, depuis le début, c'est du bluff.
On fera le bilan demain, d'ailleurs, la période des champs de l'équipe de France. On fera le bilan demain de la période des champs.
Oui, oui. Ouais, je serai pas là demain, donc ça tombera très bien. Donc je peux me permettre d'en dire un mot maintenant. Mais, ouais. Mais voilà, c'est une terrible désillusion. Et on s'est contenté de ça, et je trouve ça terrible. Sincèrement, je suis très en colère. Voilà, je suis très en colère.
T'es d'accord, toi, Jérôme?
Non, non, mais
tu partages cette colère.
Non, mais moi, je partage la colère. Pourquoi? Parce que, en effet, et Dugal l'a bien dit. Moi, je parlais des propos de Cherki après le match, là où je les ai pas compris encore une fois. Dire quand il dit la seule équipe qui pouvait nous battre, c'était nous-mêmes. Non, mais franchement, quand tu prends une leçon comme ça pendant 96 minutes, au moins la moindre des choses, c'est de fermer ta tronche là-dessus et de reconnaître la supériorité de l'adversaire, ou de reconnaître que t'as fait le match avant et que t'as été mauvais sur ce match-là. En plus, lui, malheureusement, ça va encore. Et pourtant, je l'ai défendu au début de la compète sur ses entrées. Mais son entrée hier, elle est inadmissible. À faire des louches, à faire des trucs comme ça. Non, mais comment
pas
tu
résumer
veux
la défaite d'hier.
Non, mais quand tu rentres avec autant de déchets, encore une fois, comme ses potes, hein, c'est la même chose. Au moins, tais-toi. Et puis après, là où Dugas a raison, c'est qu'on les a entendus, toute la compète, à nous dire, on a un groupe fantastique, on vit bien ensemble, on est en mission, on est ceci, ce groupe, rien peut nous arriver, ouais, mais... même dans la difficulté, ceci, cela. Et attention, quand tu le dis comme ça, ouvertement, publiquement, que tu le répètes, tu te dis, attention. Franchement, faites votre autocritique quand tu regardes. Et c'est là, moi, que je leur en veux plus. Parce que c'était pas histoire de dire, tiens, pour faire parler de moi, ou Johan Mikou, encore une fois, je le cite parce que je pense que dans les médias, avant le match du gars, excuse-moi, mais avant le match, on était deux à tenir ce discours-là. Attention, depuis deux matchs, en effet, voire un peu plus, on nous voit très beau avec les quatre joueurs offensifs, tout ça. Contre le Paraguay, on a été vilain. Contre la Suède, ça s'est joué sur l'exploit de Mbappé. Ouais. Contre le Maroc, contre un tout petit Maroc, franchement, on n'avait pas été flamboyant. Mais il fallait faire attention. C'est tout dans les analyses.
C'est quoi le plan de jeu d'hier de l'équipe de France? C'est quoi? J'ai écouté Mbappé.
Bah, c'est le même qu'il y a deux ans.
On voulait presser haut. On voulait faire du 1 contre 1. Quoi le plan de jeu de l'équipe de France? C'est ça qui me.
On a joué à 3 derrière.
On les voyait presser. Pas pressé, ils y vont,
Dugas,
ils y vont pas.
On a bien joué à 3 derrière. On a joué à 3 derrière avec Tchouaméni. Parce que j'ai l'impression qu'en fin de première mi-temps, Tchouaméni, il allait se retrouver dernière Ménian si ça continue.
C'est le quarterback. Ouais.
Non, mais moi, je vais vous dire un truc sur l'histoire du pressing. Oui, vous m'entendez. Moi, je me suis fait une réflexion. C'est qu'en fait, les joueurs ont demandé à Deschamps, il y a un an, de jouer à 4 attaquants. Donc, de jouer comme ils savent le faire en club, avec le pressing, etc. Comme les joueurs du PSG savent le faire. Sauf que Deschamps est incapable d'organiser ça. Et c'est ce que dit Mbappé. Sans le dire comme ça dans son interview hier, en disant c'était désorganisé et tout. Moi, je trouve qu'il met un tir à Deschamps là-dessus. Et Deschamps, autre truc, donc on sait qu'il n'arrive pas à organiser ce genre de choses. Il mise beaucoup sur les individualités. Ça, Jérôme t'en parle depuis un moment offensivement. Donc il n'a pas changé, mais il y avait un truc quand même qu'il avait. Et sur 2022, il y a un truc qu'il fait, c'est qu'il est acteur de la rencontre. C'est-à-dire que quand il faut sortir Giroud, quand il faut sortir Griezmann, parce qu'ils sont hors de forme, virus, je sais pas quoi. En tout cas, ils étaient nuls sur
ça,
le terrain.
C'est pour la deuxième fois qu'il le fait.
C'était tout à l'heure.
ça, c'est la victoire. Est-ce que c'est la défaite de Deschamps?
Et donc hier, en tout cas, il a été complètement passif en ne faisant aucun choix par rapport au statut. Mais on en reparlera tout à l'heure.
Mais Jean-Louis, tu reviens tout à l'heure, 19h, on fera le débat de Deschamps. Oui, vas-y, Eric.
Non, je peux juste réagir sur ce qu'a dit Jérôme, parce que moi j'ai pas envie de me flageller aujourd'hui et de remettre en question tout ce qu'on a pu dire tout au long de la compétition. Parce que quand on analyse le match hier soir et que on pointe les défaillances du coach, des joueurs surtout, de certains joueurs qui ont des grands statuts, moi cette équipe là, je parle pas que de foot, hein. Je parle de ce qu'elle a dégagé pendant la compétition. On en a fait des compétitions tous les trois finales comme ça où tu pars pendant 6 semaines. Et il y a souvent eu des on a fait beaucoup de débats extra sportifs dans ces compétitions là. Là malgré tout, on peut pas aujourd'hui brûler tout ce qui a été fait dans le vivre ensemble, dans
tout ce qu'on a vu de cette équipe, tout ce qu'elle dégageait, bien sûr,
et de ce qu'elle a dégagé.
T'as raison, Eric.
Moi, j'ai aimé ce qu'elle a dégagé. Elle nous a donné beaucoup d'espoir. Et c'est peut-être parce que les espoirs déçus aujourd'hui, on a été
déçus.
C'est
la vérité d'un match hier.
On a envie de tout brûler. Mais des matchs ratés, on en a fait. Des matchs où tu perds contre plus fort que toi, on en a fait. Des matchs où tu gagnes contre plus faible que toi, on en a fait. Ce matin, j'ai fait l'émission avec Apolline. Il y a un auditeur qui est arrivé en disant Je supporte pas cette truc parce que, oui, on est faible avec les forts et fort avec les faibles. Mais quand tu es la deuxième nation du monde, tout le monde est plus faible que toi. Et quand tu les joues, tu les bats. Moi, si je fais un combat contre Tyson, eh ben, je vais me faire casser la gueule. Par contre, si je prends, je vais pas citer de nom, Sim,
vas-y.
Mort peu cher. Vous vous souvenez de Sim, vous le, peut-être non, que Duguay l'a connu, Sim. Vous connaissez, il parle avec ma fichette. Oui, ma chemise grise. Eh ben, si je fais un combat contre Sim, eh ben, je gagne. Eh ben, là, je suis fort contre Sim. Mais quand je suis, ben oui, mais c'est l'histoire du sport, ça. Quand tu fais contre plus fort que toi, tu perds.
Et quand
tu
avec deux hanches en bras, je suis pas sûr.
C'est souvent. Ouais,
depuis
2018, moi, j'aimerais 2018, quand même que.
Les meilleures nations mondiales, on les bat plus, Eric. Depuis 2018,
on est à 3 défaites de suite contre l'Espagne.
C'est chaque fois l'Espagne.
Allez, tout ça, on en reparlera tout à l'heure, notamment à 19h avec
l'Espagne ou l'Argentine. Les meilleurs, aujourd'hui, il y en a plus 50 de meilleurs. Non, mais il y en a plus 50 de meilleurs, Eric, aujourd'hui, des 3-4 grosses équipes qui.
Mais il y avait 3 favoris.
Avec tout ce qu'il faut, il n'y en a pas beaucoup. Et on arrive.
Merci à Jean-Louis Tour. À tout à l'heure, Jean-Louis, 19h.
À tout à l'heure.
Et dans un instant, on va voir le procès de Michael Olise qui sera accusé d'avoir gâché sa Coupe du Monde avec encore une prestation ratée hier soir face aux Espagnols. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Et attention, le retourné d'Olise. Wow, c'est le poteau. Et un des gestes du Mondial avec le retourné de Michael Olise.
Incroyable, ça aurait été le but de la Coupe du Monde à coup sûr.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est bien dans Rotten sans flamme, on continue le débrief de ce France-Espagne défaite hier de l'équipe de France 2-0 en demi-finale de la Coupe du Monde. On n'est pas rentré encore, hein. Il y a ce match cacahuète à la troisième place, c'est génial.
23h samedi.
On va... on va tous le suivre ce match.
C'est la dernière de Didier Deschamps.
3h samedi.
Qu'est-ce que tu veux 3h samedi, alors celui-là.
Non, 3h. Pour rendre hommage au sélectionneur, il faut le regarder ce match.
Ah oui, c'est le jubilé de notre sélectionneur.
Ah oui,
jubilé de notre sélectionneur de tous les temps.
Je dis franchement, si c'est l'Argentine, je le regarde quand même.
Ouais. Bah, si c'est l'Angleterre aussi, Eric.
Ça va finir en pugilat si c'est l'Angleterre, ils vont se filer.
Faut que ça soit tapis et Joël là.
Quand même. Franchement. Voilà. D'ailleurs, tiens, on parlera parce que la deuxième demi-finale c'est ce soir. Angleterre-Argentine. Renato Civelli sera avec nous à 18h45. Et puis à 19h, je vous l'ai dit, un grand débat autour de Didier Deschamps.
On est tous pour l'Angleterre, est-ce on est d'accord, les gars.
C'est la défaite de Deschamps. non, pourquoi
oui.
Bah, pourquoi c'est pour les Anglais?
Parce que l'Argentine nous a tapé, ce qu'ils ont fait, leur attitude d'après-match, le gardien, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se fassent taper, moi je te le dis tout de suite.
Oui, et puis de refaire le match le samedi soir, ça pourrait m'aider.
Allez, c'est bon, vous m'avez convaincu. Moi aussi je suis pour les Anglais.
Ouais. Moi j'ai pas le choix, mon fils il a déjà le maillot de l'Angleterre depuis ce matin.
Allez, reparlons des Bleus.
Ouais.
Et de Michael Olise tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme.
En quel état d'esprit vous êtes après cette élimination, après cette défaite?
Des questions un peu à la con. parce que je voulais que...
Dans le vestiaire, comment ça s'est passé après le match?
Encore toujours une question à la con. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai rien à rajouter, c'est chaud.
Le procès de Roten sans flamme.
On embrasse bien Martel.
Ah, franchement, encore une question à la con.
Parlons donc de Michael Olise.
Il n'avait pas pu passé... répondre. Non, je crois Fabien.
Ah, ça, c'est clair. Et il n'a pas fait l'effort, hein, surtout. Il est passé complètement à côté de sa demi-finale, Michael Olise. Je vous donne ses stats. Aucun tir tenté, aucun dribble réussi, 20 pertes de balles, 6 duels remportés seulement sur 12 et un centre réussi sur 4. Il était déjà un peu plus en retrait en 8e et en quart face au Paraguay et au Maroc. Il est malgré tout toujours le meilleur passeur de la Coupe du Monde avec 5 passes décisives. C'est 2 de plus notamment que les Anglais Saka ou encore Gordon. On ouvre le procès de Michael Olise qui a gâché sa Coupe du Monde avec 2 procureurs. Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
On a trouvé un défenseur et un avocat pour Michael Olise, c'est Eric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
Et Charlie va rendre son verdict.
C'était commis d'office ou quoi?
Salut Charlie.
Si tu veux, quand j'ai passé mon diplôme d'avocat, c'était pas pour défendre les causes gagnées d'avance, tu vois.
Ouais, t'as raison.
Parce que vous prenez votre petit chèque là, vous allez prendre votre petit chèque pour et vous allez pas vous battre. Donc moi c'est le combat, ça me plaît moi, tu vois, le combat. Les causes difficiles à défendre, les trucs, pas les.
C'est plus Dimeco, c'est Dupond Moretti là, ça y est.
Qui prennent le chèque.
Expliquer que Olise a réussi sa Coupe du Monde, il va falloir que tu sois fort là quand même.
C'est acquittateur.
C'est pas la Coupe du Monde, c'est le match là.
Eh ben, vous parlez du match, de
non, c'est quoi la question?
Ah bah non, il a gâché sa Coupe du Monde. Donc tu vas nous
en gâché sa Coupe du Monde. Donc c'est une analyse du match hier soir, j'ai bien compris.
Bon, allez, démarrons les plaidoiries.
Pas compris, les avocats adverses n'ont pas compris les questions, ça va
c'est
être
bon
un problème.
Signe, ça, ils n'ont pas étudié le dossier, ils pensaient que c'était gagné d'avance. Vas-y Jérôme, à ton avis, il a gâché sa Coupe du Monde, Michael Olise. Et ça fait plusieurs matchs que tu nous dis attention. Olise est moins bon, Olise est moins bon. Là, ça s'est confirmé.
Non, mais après, encore une fois, moi, je l'attaque et je lui dis, en effet, et comme Dugas, il a pas fait une bonne Coupe du Monde. Dire le bilan de la Coupe du Monde, tu le tires pas après les premiers matchs du premier tour, les 3 premiers matchs où on a joué. Tout le monde nous vendait ce groupe comme le groupe de la mort. Franchement, ça n'a pas été le groupe de la mort, loin de là. On a vu ce que ça avait donné derrière. Non, mais on a vu ce que ça avait donné derrière. Et surtout, le dernier match, on a joué contre l'équipe B de la Norvège, donc même pas l'équipe 1. Et je pense que contre l'équipe 1, peut-être que ça aurait été bien de la jouer. Peut-être qu'on serait rendu compte aussi qu'on avait des soucis et que même Michael Olise pouvait avoir quelques soucis dans cette Coupe du Monde. Ça fait partie de la remise en question. Quand tu parles à juste titre en bien d'un joueur, franchement, on a tous été conquis par l'arrivée d'Olise en équipe de France. Moi, je ne remets pas en question ses qualités, ce qu'il fait au Bayern.
Tu regrettes pas tes compliments de l'époque?
Mais pas du tout. Mais je reste persuadé qu'il arrivera à gagner en régularité, en constance et à apporter un plus. Mais peut-être pas comme Didier Deschamps l'a utilisé. Et encore moins comme il l'a utilisé sur le match d'hier. Écoute, après on va parler de Didier et de ses choix, donc je vais pas rentrer là-dedans, je parle juste d'Olise. En effet, on l'attendait sur des matchs couperets, les matchs qui comptent. On peut pas dire contre la Suède il était mauvais, il a donné des balles de but, il y a pas de problème, pas de souci. Mais après contre le Paraguay, bon, on a dit ouais, chahuté, craché dessus, ils l'ont sorti de son match, ils ont pas joué au football. OK, on avait mis ce match de côté, je me souviens moi, c'était ma première phrase. Je dis voilà, j'ai aimé l'attitude des Français, le comportement et Olise en faisait partie. Ils ont pas craqué, très bien, voilà, quoique lui il était à la limite quand même. Mais le match contre le Maroc m'a laissé encore sur ma faim, loin de là, il a raté beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Mais le match d'hier, en effet, quand l'équipe de France, elle subit autant, elle court après le ballon, elle a du mal à remonter le ballon, qu'on n'arrive pas à se créer des occasions, si on s'en prend pas à Olise sur le match d'hier, on va s'en prendre à qui? Je vais pas m'en prendre à Koundé et Tchouaméni. Vous savez tout le bien que je pense d'eux. Donc oui, je m'en prends à Olise, je me dis,
parce que t'as des attentes.
Ce match-là, les Espagnols en face, va pas me dire que c'était des monstres physiquement, athlétiquement, qu'ils ont mis, même si Rodri peut le faire, il l'a très bien fait encore, parce qu'il a été excellent, mais pas que. À côté de ça, t'as des bons joueurs de football. Donc quand tu joues face à une équipe où c'est des très bons manieurs de ballon, que dans les déplacements, ils sont très, très bons, ça peut te libérer des espaces quand tu récupères le ballon. Mais il faut avoir, en effet, le génie dans les pieds. Le génie dans les pieds, malheureusement, il l'a laissé trop facilement de côté sur ce genre de match. Donc ça a rendu, en effet, une Coupe du Monde très moyenne de sa part. Mais encore une fois, je te dis, je le condamne pas à vie.
Pas en cause son
non, parce que ça reste un joueur et ça m'emmerde même de dire ça, mais c'est la réalité. Il faut être objectif parce que c'est quelqu'un dans son comportement et même dans sa gestuelle, on est obligé d'aimer quand t'es amoureux du foot.
Du gars.
On peut toujours trouver des circonstances atténuantes, mais il y a la réalité. Le match, on l'a vu. Alors, tu peux pas rater quand t'es au lycée, quand t'as monté autant de choses et quand on a mis autant d'espoir en toi, autant de déchets techniques. Je vais même pas parler de tout le reste. Je vais pas parler de son retard sur le pressing, des fois où il était partout et nulle part. Moi, je mets ça sur le dos de Deschamps depuis bien longtemps. Voilà, parce que c'est bien beau de mettre quatre attaquants et de leur dire vous êtes libres. Mais bon, faut des circuits de jeu préférentiels. Ça s'anime, une équipe offensivement. Ça, c'est pas juste.
J'ai du mal à vous retenir. Deschamps, c'est à 19h.
Oui, mais tu vois là, donc pour moi, mais après, il y a une chose qui n'appartient pour moi qu'aux joueurs, c'est quand t'es pas capable de faire un contrôle de balle, un centre correct, une passe correcte, que t'élimines personne, alors que c'est l'essence même de tes qualités. Alors après, on peut toujours te trouver des circonstances, t'es fatigué, t'es ci, t'es là, mais bon, si t'es fatigué, ben, tu vas voir l'entraîneur et tu dis que t'es pas bien, voilà. Au bout d'un moment, il faut aussi s'assumer, il faut aussi prendre ses responsabilités. Je pense que c'est un garçon qui les prend, voilà, et ça montre aussi que peut-être, moi, ça m'interroge quand même, pour tout te dire. Ça m'interroge parce que je l'ai tellement vu grand, ce garçon. Je veux pas non plus tout remettre en question parce que il pue le football et ce qu'il nous fait vibrer, c'est exceptionnel. Mais j'ai quand même du mal à me dire comment on peut être aussi fort et aussi dominant, aussi exceptionnel et aussi catastrophique. Je trouve que l'écart il est tellement abyssal que je m'interroge. Oui, tu peux rater un match, tu peux être moins bon, tu peux être, ça arrive. Mais là, comment Olise peut être aussi catastrophique sur des choses qui paraissaient pas non plus ultra compliquées non plus.
Il n'y a pas de juste milieu quoi. Ouais.
Ça m'interroge. Ça a été aussi le cas Paris Saint-Germain, le match aller et le match retour avec le Bayern où il a été totalement invisible, il a pas existé.
C'est dégagement en touche.
Il a encore. Ça prouve aussi qu'il a encore des progrès à faire. Il a 24 ans. Il est arrivé de nulle part, un peu comme un cheveu sur la soupe.
Ouais, c'est vrai.
Il a éclaté aux yeux du monde. Donc il est encore perfectible. C'est sûr. Mais ça m'interroge. Ça m'interroge quand même sur l'écart entre les deux niveaux qu'il a pu démontrer. Donc, mais pour moi, il y a aucun débat. Il a gâché sur ce match-là où on attend les meilleurs et il en faisait partie et il est passé totalement à côté de son match de manière incroyable, hallucinante.
Parole à l'avocat commis d'office, Eric Dimeco.
Écoute, moi après le match d'hier soir, voire après même toute la compétition, j'ai du mal à, et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi vous êtes focalisé sur lui, à me focaliser sur Olise. Ce gamin, il y a 2 ans, il y a la moitié des gens qui suivent le foot, voire peut-être la moitié des consultants qui savait pas d'où il venait, Crystal Palace, si tu suis pas la première ligue et encore, c'est pas le match qui passe le plus souvent à l'heure le prime de la première ligue, là tu sais l'après-midi là quand tu regardes le gros match à 17h30 le dimanche ou le 18h je sais plus le samedi, on l'a pas souvent vu, tu vois. Donc donc il nous déboule celui-là, il nous tombe du ciel il y a 2 ans, il est propulsé titulaire en équipe de France. Joueur important sans avoir jamais joué ce genre de compétition.
Il est méritant, et
moi si tu veux il y a quand même d'autres joueurs dans cette équipe qui a d'autres statuts qui sont de grandes déceptions. Donc en effet je pense que on l'a vu plus beau qu'il était, mais pas que nous. Enfin, moi, ce qui me fascine sur ce que j'entends depuis ce matin, c'est la différence. Parce que on a l'impression que on est les seuls à avoir encensé l'équipe de France, le monde entier, les consultants du monde entier, les Allemands. Vous vous souvenez pas ce qu'ils ont mis, les Anglais, les Lineker, les machins, Zlatan, tout le monde a encensé l'équipe de France, tout le monde a encensé Olise. C'est pas un truc, c'est pas une lubie collective, c'est pas un virus qui est tombé sur la terre, pour revenir à Olise, un mec qui a quelque chose dans les pieds, quelque chose dans son attitude, quelque chose qui fait que se dit tiens, on en tient un très bon. Ben peut-être qu'il lui manque encore un peu de bouteille, voire peut-être beaucoup de bouteille, pour qu'il soit très grand comme certains grands dont on le voulait bien le comparer. Ouais. Mais les gars, il y en a d'autres sur qui il faut taper quand même, non, avant lui.
On en parlera à partir de demain, notamment Ousmane Dembélé. Il faudra qu'on ouvre le dossier Dembélé.
Non mais quand même, les gars.
Non mais t'as raison, mais c'est pas le débat, Eric.
Oui, enfin, c'est pas le débat, on parle d'Olysée.
Allez, voilà, on parle d'Olysée.
Oui, justement.
Mais t'es passé le débat sur les autres, excusez-moi.
Oui,
c'est
le verdict, c'est très fort. Non, mais t'es très fort, bravo.
C'est une manière de défendre, tu vois, si tu as tué. Le jour où tu vas tuer quelqu'un, du gars, quand on va venir me voir, je vais dire, ouais, non, mais regardez, il y en a un qui, ce jour-là, il a fait pire.
Je suis pas sûr que ça passe vis-à-vis du juge, mais bravo.
Si le temps t'arrive, Charlie, ça peut. Mais demain, tu seras peut-être content que je te défende comme ça.
Charlie, est-ce que tu condamnes
à Squamini?
Ah bah excellent. Charlie, est-ce que tu condamnes Michael Olysée, toi ?
Non, je le condamne pas. Je vais du côté d'Eric.
Oh, incroyable.
Je trouve, et pourtant, tu vois, Eric, c'est en train de parler de tout, mais là, je pense que t'as à peu près tout dit. Sauf une chose. En fait, Olysée, hier, il est victime de la tactique mise en place. Il est victime d'un déserteur. Il s'appelle Aurélien Tchouaméni, qui a passé son temps entre les deux centraux. Et limite, pendant le match, je sais pas si vous l'avez vu, il a été demandé les gants à Maignan pour être gardien, parce qu'il voulait pas être au milieu de terrain. Il voulait laisser Rabiot tout seul.
C'est
vous,
toi, Jérôme.
C'est fou.
Mais c'est pas la faute à Tchouaméni s'il a pas réussi un centre, pas un dribble, il a rien réussi techniquement.
Faut avoir les ballons devant. Il y avait une forêt de jambes.
Pas la faute à Tchouaméni. Quand un ballon arrive, il n'est pas capable de faire un contrôle correct. C'est pas la faute à Tchouaméni. Il n'est pas capable de faire un centre correct. Il n'est pas capable de faire un dribble correct. C'est pas la faute à Tchouaméni, ça.
Je vous entends ton argument.
Et t'as sûrement raison. Et t'as sûrement raison sur l'analyse globale. Mais sur une prestation individuelle. Désolé. Déplacer la prestation individuelle d'un gars qui est un magnifique joueur, qui est un joueur incroyable, sur le fait qu'un autre n'a pas fait un bon match, excusez-moi, je trouve ça un peu limite.
Il a pas été bon parce qu'il a été muselé par les 6 en permanence au milieu de terrain, les Espagnols.
Charlie,
il faut avec l'attente d'Eric Dimeco.
Quand Olysée a un.
Je suis pas sûr, mais
la France te remercie, Charlie.
Non, mais en plus, là, Charlie, où il est pas. Où c'est pas écoutable, ce qui nous raconte.
Ah ouais, non, mais Eric, là, si vous attaquez Charlie, ça va plus. Hein.
Non, mais c'est juste.
L'indépendance de la justice.
Quand Olysée avait le ballon dans les pieds hier, le bon contrôle, la bonne passe qu'il a pu faire sur les matchs d'avant où il donnait des passes décisives et
en effet.
Et on était les premiers à le dire. Ouais. Et avec Dugas, c'est ce qu'on a dit. Il t'invente des passes, c'est fantastique. Quand il n'est pas au rendez-vous sur des moments où l'équipe de France a besoin d'avoir ses meneurs,
Oui, c'est pas la faute des autres.
Allez, victoire d'Eric. Et dans un instant,
Le nombre de matchs où j'étais nul et j'ai dit que c'était la faute des autres.
Ouais. C'est bon, ça.
Et moi je refais un bilan de ma carrière, là, c'est ce que je me dis. T'as Sylvain Armand, il va coûter pas mal ma carrière quand même.
Allez, à 96, quand il arrive, c'était pas sur toi que on aurait pu taper si ça s'était mal passé. Tu vois, il y a des. Quand les jeunes, c'est pas sur eux. Les mecs,
ils
parce qu'il y a des mecs qui ont des statuts dans les équipes quand même.
Renato Sivilia,
lui, il a pas de statut. C'est pas le leader technique.
On va lancer.
Il vient d'arriver depuis
Angleterre, Argentine de ce soir.
Mais toi, j'ai compris. Pour Amand, dès qu'il y a un gaucher qui arrive, il est toujours pas beau.
J'ai compris pas mal. Moi, pourquoi j'ai pas réussi en équipe de France à être meilleur, c'est parce que Lisa était carbo derrière moi. Voilà, maintenant j'ai compris.
C'est possible. On l'embrasse.
Merci Eric.
Lisa, dans un instant, Renato Sivilia. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h50 sur RMC, on est à 10 minutes de la fin de la première heure de Roten sans flamme, mais vous inquiétez pas, on est de retour après 19h. On n'a pas fini le débrief de ce France-Espagne, beaucoup de choses à dire, on en a dit pas mal déjà depuis 18h avec Eric Dimeco, Christophe Dugarry et Benoît Boutron. Benoît, on va recevoir un Argentin.
Renato Sivilia avec nous dans un instant, et à 19h le débat, Roten se chauffe, on vous attend au 32-16
pour l'Argentine.
Le débat de 19h est la défaite de Deschamps, donc 32-16 pour participer avec nous. Et tout de suite, parlons des Argentins.
RMC, Roten sans flamme.
Il a tiré, Sivilia, c'est le meilleur. 1-0 pour le LOSC. Elle a le sourire entre Sivilia et Buffal.
Hello, Jérôme.
Yes. La deuxième demi-finale, très attendue ce soir entre l'Angleterre et l'Argentine à Atlanta. On parlera de la portée historique de ce duel à 19h45, mais accueillons un invité pour parler du côté sportif. Renato Sivilia, ancien joueur de Nice, de l'OM, du LOSC.
Argentine.
Aujourd'hui, directeur sportif à Defensa et Justicia, club de Buenos Aires. Il est avec nous, Renato, Jérôme.
Salut, Renato.
Salut Jérôme, salut les gars, comment allez-vous?
Salut Renato,
ça va, merci d'être là, bienvenue avant ce grand match pour l'Argentine, encore un grand match. C'est incroyable ce qui se passe quand même en Argentine après la victoire en 2022, une nouvelle demi-finale. La génération est exceptionnelle, Renato.
Ouais, c'est vrai qu'on enchaîne depuis même la Copa América. avant, je pense que c'était 2021. Et c'est incroyable cette équipe, les résultats qu'il a obtenus, non? Parce que c'est pas toujours avec la manière, mais c'est une équipe qui sait gagner, qui sait jouer les gros matchs, en fait.
Est-ce que elle te plaît cette équipe? Elle correspond très certainement à la mentalité argentine.
Écoute, c'est pratiquement le même joueur qu'en 2022, mais c'est vrai qu'il joue moins bien. Et je vois des individualités beaucoup moins performantes qu'au Qatar. Et surtout Alexis, Enzo, Fernandez au milieu, je trouve qu'ils ne sont pas au même niveau qu'avant. Même Julian Alvarez, qui a marqué ce but exceptionnel, mais qu'il n'avait pas, il avait pas fait de gros matchs. Mais bon, on a vu hier la France, et que pour moi c'est la meilleure équipe du championnat du monde, et qui a passé à travers. Et ouais. Et il faut savoir jouer les gros matchs. Et je pense que cette équipe, il sait jouer ce type de match, mais c'est un sport que vous le connaissez autant ou mieux que moi, et c'est pas toujours le meilleur qui gagne, non?
Et justement, c'est un peu l'inverse de l'équipe de France. Il n'y a eu que des qualifications à l'arrache pour les Argentins. Hein. Prolongation contre le Cap-Vert, 3-2 face à l'Égypte. On a commenté le match avec Jérôme, c'était complètement fou. Ah ouais, il y avait 2-0 jusqu'à la 75e pour les Égyptiens. En prolongation encore contre la Suisse. Tout ça, ça t'inquiète pas, Renato? Tu te dis, les matchs sont tous différents et c'est pas pour ça que contre l'Angleterre, on arrive en tant qu'outsider?
Non, je pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est 50-50. Peut-être jouer contre l'Espagne ou la France aujourd'hui, ça aurait été différent, mais je vois pas l'Angleterre être sur le papier devant l'Argentine. Et surtout qu'on a, on a un joueur que les Anglais, ils l'ont pas, non? Et c'est un joueur qui change tous les matchs et qui change à chaque fois l'équation et il nous surprend tous les jours. C'est impressionnant.
C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais sur Léo Messi, nous on est bluffés de sa forme. Autant tu parlais de l'équipe d'Argentine qui est peut-être moins forte pour toi qu'en 2022, mais moi je trouve que Léo Messi, en étant sur place en 2022 au Qatar, on a vu tous les matchs, j'ai vu tous les matchs, je trouve que sur cette compète, Léo Messi, il est meilleur qu'en 2022.
Écoutez, c'est vrai qu'il est plus décisif, et en 2022 il venait de jouer à Paris. Moi, ce qu'il faisait à Paris, il n'était pas énorme. Et ouais, moi, je ne croyais pas que Léo il allait faire un championnat du monde comme il a fait. Mais c'est des génies, c'est des personnalités qui c'est pas facile à comprendre. Et il retrouve à chaque fois la motivation. Et ces matchs, pour les Argentins, c'est très spécial. Et j'espère surtout pour lui. Qu'il puisse gagner, qu'il puisse faire un grand match, parce qu'il y a toujours la comparaison et les matchs de Diego en 86, et je suis pas d'accord. Messi, il a démontré énormément de fois l'importance qu'il a dans l'histoire du football argentin, mais il y a des gens aussi qui demandent plus et plus, et ils demandent qu'il fasse un but pratiquement pareil comme Diego en 86, tu vois.
Oui.
Le but du siècle.
J'espère pour lui, surtout. Pas pour nous. Moi, personnellement, ça ne me change pas grand-chose. mais c'est surtout pour lui qu'il puisse. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Et même si je suis pro Maradona, mais c'est un truc passionnel, complètement rien à voir avec le foot. Mais footballistiquement parlant, les choses qu'il a fait Lionel, c'est incomparable, non?
C'est incroyable, oui, exactement. Renato, pour parler un peu du match de ce soir, c'est quoi la lecture pour toi de ce match? Tu penses que ça va jouer où pour que les Argentins s'offrent encore une finale?
Écoute, on n'a pas la formation encore. Il parle qu'il peut passer en ligne de 5.
Ouais,
et mettre Otamendi, mais il y a beaucoup d'hermétisme, on ne sait pas. Ils disent que peut-être il va jouer Simeone sur le côté et Nico González sur l'autre côté. Je pense qu'il faut qu'il change quelque chose, parce que le dernier match, surtout, on a eu une fragilité énorme défensivement. Mais d'un autre côté, changer des joueurs qui depuis 5 ans ils gagnent tout, c'est pas facile non plus pour les groupes et on sait bien nous qu'on avons joué au foot. C'est important aussi garder cet état d'esprit et parfois quand tu touches des joueurs importants comme par exemple Rodrigo De Paul, il faut savoir comment ça joue à l'intérieur du groupe, non?
Renato, il y a une forte histoire, un sacré antagonisme entre l'Angleterre et l'Argentine. C'est le premier duel depuis 24 ans. Il y a cette histoire du but du siècle de Maradona, le but de la main aussi il y a 40 ans. Il y a eu aussi c'était tout un symbole après la guerre des Malouines en 82. Ça donne une portée supplémentaire en Argentine. C'est une motivation supplémentaire de croiser l'Angleterre comme ça en demi-finale de Coupe du Monde. C'est quelque chose de particulier?
Oui, tout à fait. Et c'est les matchs aujourd'hui pour les Argentins. Et malheureusement, je te parlerai parce qu'il mélange tout. Il mélange surtout la politique, il mélange la guerre des Malouines. Il mélange plein de choses. Je suis d'accord avec l'entraîneur argentin qui a dit que c'est un match de foot. Et après tout, ça reste un match de foot. Et il faut pas tout mélanger. Mais oui, c'est plus important que la finale. Et je vous dis que aujourd'hui, gagner ou perdre aujourd'hui, malheureusement, ça va écrire l'histoire aussi de cette équipe, non?
Ah oui, perdre aujourd'hui et contre la France samedi, ça ferait mal, Renato.
Ouais. Oui, mais bon, je suis content, hein. Pas content pour vous parce que j'avais peur vraiment de jouer contre la France parce que, voilà, au niveau individuel, même si hier ils sont passés complètement à travers, il n'y a pas eu une réaction. Moi, j'attendais la réaction de la France qui n'est pas arrivée, non?
C'est vrai.
Exactement. On t'inquiète pas, on continue de le débriefer. Merci Renato.
Merci Renato, en tout cas, bon courage.
On attend toujours la réaction de la France. On attend toujours.
Voilà, exactement. On attend. Salut Renato.
Allez, à samedi alors. Salut Renato.
On ne te souhaite pas, mais bon, on verra. Merci Renato.
Merci encore. Bye.
18h59 sur RMC, la suite de Rotten sans flamme dans un instant. La Rotten se chauffe. Ce grand débat que vous attendez depuis 18h. Est-ce la défaite de Didier Deschamps hier? On est là avec Christophe Dugarry, Jérôme Rotten, Eric Dimeco. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.